au pays des forêts et des fjords, de Bergen à Christiania par le Valders, par M. Charles Rabot. Chapitre 1er. La nuit dernière, perdu dans la brume, notre paquebot a heurté un caillou au nord de Bergen, entre le Sognefjord et le Nordfjord. Un choc terrible, un grincement formidable, et le vapeur vert sur bâbord comme s'il allait capoter. « Les embarcations à la mer !» commande le capitaine. Et à ce cri de détresse, une panique effroyable saisit les passagers. Surpris dans le sommeil, tous accourent sur le pont, presque nus, sautent sur les ceintures de sauvetage, et ignorant les commandements comme les manœuvres, courent, éperdus et affolés. Dans une pareille bagarre, seuls les voyageurs qui ont la pratique de la mer ont des chances de salut. L'alerte est heureusement vaine. La coque a résisté à la violence de l'abordage, pas une goutte d'eau n'a pénétré dans la cale. Notre grand paquebot, si vivant il y a quelques heures, gît maintenant, inerte, sur son lit de rocher comme une pauvre chose morte, et notre bande, naguère si joyeuse et si pleine d'entrain, demeure triste et silencieuse. Tout cela était si prompt, si rapide, que l'on en vient à douter de la réalité. On se demande si l'on n'est pas le jouet d'une illusion. On a comme l'impression d'un cauchemar terrible. Quelques heures plus tard, un vapeur anglais arrive, s'arrête devant nos signaux de détresse et nous embarque pour nous conduire à Fleurau, à quelques milles au sud du lieu du sinistre. Fleurau, station de nombreuses lignes des paquebots, poste télégraphique, 500 habitants, une grande ville dans ce pays où toute la population est disséminée en petites communautés dans les îles et sur les bords des fjords ou dispersée dans les âpres montagnes de l'intérieur. Autour, un horizon de bouts de mer coupé de rochers et de montagnes, paysage lugubre sous la tristesse d'un crachin glacial. Depuis 24 heures, la pluie tombe sans une minute d'accalmie. Poussée par la tempête, toujours arrivent de nouvelles pannes de nuages gonflés d'eau. Sous ce déluge, les contours du paysage sont noyés dans une grisaille imprécise. À travers ces pénombres, seul le brisement des lames sur les rochers jette des lueurs, comme des éclairs au milieu de l'obscurité de la nuit. Nous sommes ici dans le pays de la pluie. À l'extrémité supérieure du Sognefjord se dresse le relief le plus accusé de la péninsule scandinave, le massif du Jotunheim, flanqué d'énormes glaciers. Sur les rives du Sogne s'étale, sur un haut piédestal de 2000 mètres, le Jodesdal, la plus vaste nappe glacée de l'Europe continentale, et plus au sud, au-dessus de Hardanger, la grande coupole glacée du Folgefonn. Rencontrant ces brusques saillies du continent, les nuées atlantiques s'y condensent en trompes d'eau. Nulle part ailleurs en Europe, si ce n'est sur la côte d'Écosse et en Irlande, les observatoires météorologiques n'enregistrent la chute d'une aussi grande quantité de pluie. À Fleurau, la tranche d'eau tombée annuellement atteint 2,30 m, et à Bergen, elle n'est pas inférieure à 1,80 m. Aussi bien, pour constituer des êtres complets et parfaitement adaptés au milieu dans lequel ils vivent, les gens de Bergen devraient, comme les chauves-souris, avoir les bras munis de membranes dont ils se serviraient en guise de parapluie, raconte je ne sais plus quel humoriste indigène. On doit, dit-on, visiter chaque pays à l'époque de l'année la plus caractéristique de son climat, et pour cela, on recommande de parcourir les pays du Nord sous la neige et ceux du Midi en pleine canicule. Donc, ne maudissons pas cette pluie. Sous cette averse torrentielle, cette partie de la Norvège nous apparaît dans son cadre normal. L'impression, certes, n'est point gaie. En plein mois de juillet, un retour brusque d'hiver. Il y a 2 jours, à Bergen, la chaleur était insupportable. Aujourd'hui, le thermomètre ne marque que 5 degrés, et transi par les douches reçues au moment de l'échouement, nous nous pelotons frileusement au coin du feu. Maintenant, tout notre plan de voyage se trouve bouleversé par l'aventure de cette nuit. Nous étions partis pour le Cap Nord, et nous voici arrêtés par le plus sot des accidents. Je ne sais combien de fois, au cours de mes voyages en Laponie, j'ai déjà parcouru la côte de la Norvège septentrionale. Aucune curiosité ne m'attire donc là-haut. Dans ces conditions, je prends le parti de gagner Christiania, puis Stockholm, en traversant la Scandinavie méridionale. Des abords de l'Atlantique, 6 routes conduisent à Christiania. La plus rapide, mais la moins intéressante, est la voie ferrée reliant la capitale de la Norvège à Trondheim. Le trajet s'effectue en 17 heures, presque toujours au milieu d'ennuyeuses forêts. Au sud de cette voie ferrée s'ouvre la route par le Romsdal et le Gudbrandsdal, très belle dans la première vallée, très monotone dans la seconde. Le troisième itinéraire part du Geirangerfjord pour aboutir également au Gudbrandsdal. Ici, comme dans le passage précédent, le paysage, grandiose dans le voisinage de la mer, devient très monotone sur le versant oriental. Lorsque le chemin de fer projeté à travers le Gudbrandsdal sera construit jusqu'à Bredevangen et permettra de parcourir en quelques heures cette dernière vallée, cet itinéraire deviendra le plus intéressant et le plus rapide. Les trois autres routes ont pour point de départ Bergen et traversent le Valdors, le Hallingdal et le Telemark. Il y a quelques années, j'ai suivi ce dernier itinéraire. Le Hallingdal est, dit-on, peu intéressant. Je me décide donc en faveur du Valdors, qui passe pour la plus belle vallée de la Norvège méridionale. À minuit, nous nous embarquons à destination de Bergen. 11 juillet. Après la bourrasque, voici enfin le soleil. Un pauvre soleil blanc, tout mouillé, dans un ciel jaune. Le vent est tombé, mais la mer reste houleuse. Sa nappe, enflée en longues ondulations, jaillit sur les îlots extérieurs en haut panache blanc, et jette sur les rives de larges flocons d'écume comme des plaques de neige oubliées. Une lourde panne de nuages passe, et le miroitement des eaux s'éteint dans une pénombre violette. Les bras de mer entre des avancées de hautes falaises, puis d'étroits canaux bordés de rochers bizarres, et plus loin, de nouvelles plaines d'eau. C'est toujours ce même paysage extraordinaire de montagnes dressées au milieu de l'océan et de fjords engouffrés au milieu des montagnes. Partout, des pierres nues, polies, comme passées au laminoir, une énorme carcasse rocheuse hérissée en bagues rigides au-dessus de la mobilité de l'eau, et partout, à travers cet entassement confus de pics d'aiguilles et de dômes, un dédale inextricable de fissures remplies par la mer. Le chenal s'élargit. Au milieu de prairies et de bouquets d'arbres, des maisonnettes mettent, le long de la mer, de petites taches blanches et roses. Le paysage devient riant et gracieux. Encore d'étroits goulets, puis la vapeur débouche dans une large plaine d'eau. Au bout de cette espèce de lac, Bergen étage son gros tas de maisons entourées de verdure. Derrière un premier plan de navires, de mâts, de cordages, de haubans, de cheminées, une tour carrée, crépie à la chaux, blanchie à côté de vieilles baraques aux pignons archaïques. Une impression de Lübeck ou de vieil Hambourg. Un décor d'Allemagne Moyen-Âge, dans un cadre de montagnes pittoresques. Sur le quai nous attend notre sympathique vice-consul, le bon et aimable Monsieur Grève. Depuis 35 ans qu'il occupe ce poste, notre représentant à Bergen n'a jamais laissé échapper une occasion d'être utile ou agréable aux Français. Aussi bien, dès qu'il a été avisé de notre arrivée et de notre accident, de suite, il est venu nous offrir ses bons offices avec son amabilité et sa bonne grâce habituelle. Bergen est la plus amusante et la plus intéressante des villes de Norvège. Toute la journée, dans la rue principale, la Strandgade, c'est un grouillement sans cesse renouvelé de pêcheurs et de paysans, constellés par le bariolage éclatant de femmes en casaque rouge et en coiffe blanche. Seuls avec les gens du Settersdal, les indigènes des environs de Bergen ont pieusement conservé leurs anciens costumes. Et tout ce monde se meut dans un cadre très drôle d'étalage éclatant de cuivreries, d'éventaires couverts de pelleteries et de baraques biscornues toutes basses, blotties à côté de grandes bâtisses. Dans les constructions comme dans les costumes, le passé coudoie le moderne. Plus loin, une immense place bordée de hautes maisons, des banques, des offices commerciaux. Au-dessus, un entrecroisement de fils télégraphiques et téléphoniques. Le ciel a l'air tendu de toiles d'araignées. Nous dévalons vers le port qui avance au milieu de la place, et de ce côté c'est le spectacle toujours animé d'un marché aux poissons en plein vent. Autour, on se bouscule, mais on n'entend le bruit d'aucune dispute. Même dans le débat des prix, ces gens du Nord conservent une placidité imperturbable. Le vendeur dit son chiffre, l'acheteur réfléchit un instant, si l'accord ne s'établit pas, on se quitte sans s'injurier. À deux pas de là se trouve le quartier le plus curieux de Bergen, le Tidskebrygge, le quai des Hanséates, un coin de vieille ville en bois dans un état parfait de conservation. Une rangée de baraques à pignons ouvragés, devant, des navires aux formes anciennes, des yechts et des yachts, qui ont tout l'air de vieilles nefs normandes. Au bout, une vieille forteresse à tourelles. Le décor est complet. Nous entrons dans une de ces maisons transformées en musée. La restitution de l'intérieur a été étendue aux plus petits détails. Voici le comptoir, avec les livres, les balances, l'encrier, les plumes. Dans la chambre à coucher, tous les meubles sont en place. C'est la plus forte vision du XVIe siècle que nous ayons jamais éprouvée. Le Tidskebrig a été le théâtre du principal épisode de l'histoire de la ville. Au milieu du XIVe siècle, les Hanséates fondèrent un comptoir à Bergen, précisément sur l'emplacement actuel du quai qui porte leur nom. Rapidement, cet établissement prit une grande importance et bientôt étendit ses affaires dans tout le pays jusque dans le Nordland. En Norvège, comme sur les bords de la Baltique, les Allemands surent acquérir le monopole du commerce. Un siècle après leur premier établissement, ils étaient devenus les maîtres de toutes les transactions de Lindesnes au Cap Nord. Ils achetaient aux indigènes le produit de leur pêche et en échange leur fournissaient toutes les marchandises dont ils avaient besoin. Leur puissance devint bientôt telle qu'ils jugèrent utile de garder aucun scrupule et sans la moindre vergogne, chez ces commerçants rapaces, l'usage de faux poids devint général. Contre ces exactions, les malheureux Norvégiens restaient impuissants. Les flottes de la Hanse tenaient la mer, poursuivant avec la plus implacable rigueur les navires des autres nations qui essayaient de venir faire concurrence à la puissante association. Les Allemands méconnaissaient complètement l'autorité du roi de Norvège et se considéraient comme les maîtres de Bergen. Mais à partir du XVIe siècle, leur puissance commence à décliner. Peu à peu, ils perdent leurs droits abusifs. Ce ne fut cependant qu'en 1764 que ferma leur dernier établissement. Cette lutte commerciale a laissé dans la population un souvenir vivace mais assez injuste. Les gens de Bergen oublient que si les Allemands furent sans scrupules, ils furent plus tard aussi à Progain dans l'exercice de leurs privilèges commerciaux. Eux aussi ne se montrèrent pas moins impitoyables à l'égard des pauvres pêcheurs du Nord. En histoire, on ne se souvient que des défaites. Dans l'après-midi, promenade à la vieille église de Fantoft, construction en bois d'un style très spécial, que les Norvégiens désignent du nom de Stavekirk. Le monument est étrange et fantastique. Un entassement pyramidal de toits, de clochetons, de pignons, montant en l'air comme une pagode de dominos. D'après le professeur Dietrichson, les Stavekirk seraient une reproduction des églises romanes d'Angleterre et de France, modifiées par la substitution du bois à la pierre. Ces églises sont souvent ornées de sculptures archaïques représentant des scènes religieuses ou des mythes du paganisme. Elles dateraient donc du XIe siècle, de l'époque de transition entre le paganisme et le christianisme. Des 700 ou 800 Stavekirk qui ont existé jadis en Norvège, il n'en subsiste plus que quelques-unes. Pour sauver de la ruine ces derniers monuments de l'art primitif, la Société archéologique de Norvège en a pris quelques-uns sous sa protection, tandis que d'autres ont été achetés, transportés et réédifiés en lieu sûr par d'intelligents citoyens, comme c'est le cas pour l'église de Fantoft. Chapitre 2. De Bergen en Christiania, la première étape se fait en chemin de fer jusqu'à Vossvangen. Le paysage est d'abord gai et gracieux. De tous côtés, des lacs encadrés de prairies fleuries, partout une merveilleuse poussée de végétation printanière. Le train file à toute vitesse, dévalant une pente rapide, et à chaque courbe, de violentes secousses nous jettent de droite et de gauche. Le wagon tangue et roule comme une barque secouée par la lame. D'une minute à l'autre, on s'attend à culbuter dans quelque effroyable précipice, et l'on est tout étonné d'arriver sans accident au bas de la côte. Un voyage sur les lignes suédoises ou norvégiennes constitue une excellente acclimatation traversée sur les mers houleuses. Maintenant, nous voici dans un paysage sauvage, effrayant de tristesse. Le convoi court au-dessus d'un fjord, très caractéristique, entre deux chaînes de montagnes abruptes, un long et étroit fossé plein d'une eau lourde et huileuse. Sur le bord du précipice, la ligne est taillée en corniche aérienne, traversant en tunnel les saillies de rochers, enjambant les ravins sur des ponts graciles, un chemin de fer suspendu au flanc de la falaise. De toutes parts giclent des cascades. Le fjord fait un coude, le train s'engage dans une gorge étroite, puis débouche sur un autre fjord pour s'élancer sur un second balcon vertigineux. Ce chemin de fer est une des lignes les plus hardies d'Europe et une des plus intéressantes par la beauté de ses aspects. Pendant toute la durée du voyage de Bergen à Volkswagen, ce n'est qu'un cri d'admiration, une suite d'enchantements et d'étonnements, une variété indescriptible de panoramas tour à tour gracieux et sauvages. Après un nouveau fjord, une nouvelle gorge, toute verte de bouleaux, traversée par un large torrent aux eaux cristallines s'éboulant en cataractes bruyantes. Toujours des tunnels. De Bergen à Volkswagen, sur une distance de 108 km, on ne compte pas moins de 55 souterrains. Tout à coup, les grandes parois rocheuses s'écartent devant une jolie nappe d'eau entourée d'alpages et de forêts. Un paysage idyllique, plein de fraîcheur, succède sans transition au spectacle terrible des fjords. Nous arrivons à Volkswagen. Une impression de Tyrol. Sur les premières pentes, une marqueterie criarde de champs de céréales et de pâturages. Plus haut, des futaies noires, couronnées par un glacis de neige ruisselant au milieu des arbres, par-devant une nappe d'eau endormie, dans le calme pénétrant du crépuscule. De tous côtés, des horizons emplis de paix et de repos. Dans ce décor merveilleux passent des groupes pittoresques de femmes bariolées d'étoffes aux tons vibrants, des corselets rouges avec des bandes vertes, des gammes blanches, des jupons noirs avec des tabliers blancs striés de broderies. Devant ce panorama enchanteur, un grand chalet présente une large façade éclairée, ajourée de vérandas, l'hôtel Fleischer, un caravansérail capable de loger un bataillon. Autour apparaissent d'autres hôtels plus modestes. Généralement, au cœur de la saison, toutes ces maisons sont pleines. Volkswagen est le séjour d'été des habitants de Bergen et tous les jours passent de nombreuses caravanes de touristes allant du Hardanger Fjord au Sognefjord ou vice-versa. Ce village est l'Interlaken de la Norvège. 13 juillet. Une matinée radieuse. Sous un clair soleil joyeux, le paysage luit dans une fraîcheur exquise, parfumée de senteurs de foin et de bois. L'heure de la jeunesse de la nature dégageant une sensation de bien-être et de bonheur. À 8 heures, nous montons en calèche. Aussitôt après, en route. La calèche est un simple vis-à-vis, très léger. Oh, combien peu pittoresque en comparaison de la carriole et de l'archaïque Stolkjar. En revanche, la voiture est commode, spacieuse, et sans aucune fatigue, une femme peut faire en cet équipage des étapes de 100 km par jour. Une expédition que je n'engagerai personne à entreprendre en Stolkjær. Après 20 ans, je garde encore le souvenir d'un voyage de 30 lieues fait dans une seule journée en ce primitif véhicule. De Volkswagen à Stahlheim, 39 km, toujours en montant. Comme toutes les vallées norvégiennes, celle du Vosselstrandel s'élève en gradins, et chaque gradin abrite un lac. Sur les surfaces absolument unies de ces nappes, les moindres détails du cadre se reproduisent avec une netteté si parfaite que la démarcation entre la terre et l'eau devient invisible. On a l'illusion d'immenses glaces placées là pour agrandir la scène. Plus loin, une gorge boisée bruissante de cascades. Partout, de belles eaux claires et limpides, vertes comme les prairies au milieu desquelles elles chantent, et partout, une merveilleuse verdure, une nature éclatante de gaieté et de vie. Le défilé s'élargit. Au milieu d'une forêt de pins, un nouveau lac fait une longue tache bleue dans la rougeur des troncs frappés par le plein soleil de midi. Midi. Tout l'espace flamboie. Les hautes cimes grises luisent comme des plaques d'acier. En bas, la terre surchauffée rayonne une chaleur lourde. Et nous sommes venus chercher ici la fraîcheur. Derrière la plaine bombe un mamelon rocheux. De toutes parts, d'âpres montagnes dénudées avancent en côtes abruptes. Nos petits chevaux lancés à fond de train gravissent la pente avec ardeur. Ce rude coup de collier nous amène à Stahlheim. Inopinément, sans que le moindre mouvement de terrain nous y prépare, le sol manque pour ainsi dire sous nos pas. Devant nous s'ouvre un précipice vertigineux, une énorme et profonde crevasse, dont la vue fait passer un frisson d'effroi. La terre, disloquée par quelques convulsions géologiques, est fendue là en une longue et étroite fissure au milieu d'un entassement de montagnes rugueuses. Ce gouffre effrayant est le fameux Nerodal, un des paysages les plus justement célèbres de la Norvège, et l'impression produite par cette fracture étrange est d'autant plus saisissante qu'elle est absolument inattendue. Depuis Volkswagen, on chemine au milieu de pâturages et de forêts. La route fait un coude, gravit un monticule, et tout d'un coup se découvre la crevasse du Nerodal dans un panorama de montagnes sauvages, dénudées, écorchées d'éboulements. Au bord du gouffre est situé Stahlheim, composé purement et simplement d'un hôtel et de ses dépendances, une construction en bois encore plus vaste que l'hôtel Fleischer à Boss. L'établissement contient 200 chambres et une salle à manger grande comme une petite église. Tout cela très propre, astiqué et reluisant comme un sou neuf. Un grand caravansérail construit sur le modèle des stations d'été les plus fréquentées de la Suisse. Nous déjeunons et aussitôt après nous nous acheminons vers le Nerodal. Le Stahlheimsklev, la paroi de roche qui bouche la vallée, est haute de 250 mètres. Pour descendre au fond du gouffre, la route serpente en 16 lacets le long de l'escarpement. Au bas, de chaque côté se dressent des falaises polies, montant à pic à plus de 1000 à 1200 mètres. Entre les deux lèvres de la crevasse, un tout petit pan de ciel est visible. En avant et en arrière se dressent également d'autres murailles rocheuses. Partout, l'horizon est bouché par un entassement formidable de très hautes montagnes, si bien qu'en hiver, jamais le soleil n'éclaire le fond de la vallée. On a une impression d'étouffement comme au fond d'un puits. De tous côtés, les falaises sont striées par des blancheurs de cascades, se résolvant en poussière d'eau comme la fameuse Staubach, ou écorchées par des éboulements qui ont ouvert de profondes plaies dans l'épaisseur des rochers. Un peu plus loin, le défilé se trouve rempli par une nappe d'eau. Nous arrivons à Gudvangen, sur les bords du fameux Nergjofjord, où nous nous embarquons sur un vapeur local à destination de l'Erdelshorn. Le fjord est large de moins de 1 km, et sur ses deux rives, la pierre sort de l'eau à pic pour se dresser en paroi verticale, absolument comme de le Nerodal. Représentez-vous un fleuve énorme, engouffré dans une profonde crevasse. L'escarpement des parois se continue en dessous comme en dessus de la surface de l'eau. Sans crainte de toucher, des vapeurs de 5000 tonnes peuvent passer au ras des rochers. Insensiblement, le chenal s'élargit, et bientôt le vapeur débouche dans l'Aurlandfjord, puis dans le Sognefjord, tout ensoleillé. Le Sognefjord et le Hardangerfjord sont les deux plus célèbres défilés marins de la Norvège méridionale. Auquel des deux donner la préférence? Le Hardanger, paré d'une végétation absolument étonnante pour la latitude, enveloppé des féeries de la légende, un charme pénétrant, avec ses paysages tour à tour gracieux et sévères, mais le Sogne est à coup sûr le plus extraordinaire. Figurez-vous au milieu de hautes montagnes une fissure longue de 170 km, sur laquelle s'ouvrent perpendiculairement d'autres fissures, plus courtes et plus étroites. Figurez-vous en un mot une terre étoilée par un système de crevasses qui se recoupent et que la mer a envahi. Chacune de ces fentes secondaires a un caractère particulier. Nous venons de parcourir le sombre Nørrefjord. De l'autre côté du Sogne s'enfonce, à travers le plateau de Jodestal, le Fjärilsfjord, terminé par un mur de glaciers, pareil à une haute vallée des Alpes inondée à la suite de quelques cataclysmes géologiques. Plus loin, le Listerfjord, avec des horizons de verdure blanchis par des neiges lointaines, comme sur les bords d'un lac suisse, puis l'Aurlandsfjord, conduisant au Jotunheim, l'Oberland norvégien. Le Sognefjord forme un coude, et au bout de ce nouveau corridor, l'Erdalshorn groupe ses petites maisons grises sur une plaine verte. À gauche, dans la buée violette du crépuscule, deux grands bâtiments à l'ancre blanchissent la moire satinée de l'eau grise. Le Hohenzollern et son cuirassé d'escorte, le Gefion. Guillaume II a choisi le Sognefjord comme centre de son traditionnel voyage en Norvège. L'empereur a eu heureusement la bonne idée de rester à son bord, et sans aucune difficulté, nous trouvons place à l'hôtel. N'importe, la vue du Hohenzollern nous avait passé un mauvais moment. Un voisinage impérial n'est pas précisément agréable pour de simples touristes. Il y a quelques jours, nous avions déjà rencontré le Kaiser. L'empereur et sa suite occupaient toute l'auberge. Sans son intervention, paraît-il, nous aurions dû coucher à la Belle Étoile après une longue et pénible excursion. Chapitre 3e. 14 juillet. À 7h du matin, grand remue-ménage. Guillaume II traverse le village en carriole à la tête d'une nombreuse caravane. Il va visiter la vieille église de Borgund, à 30 km dans la montagne sur la route de Valders. Sans garde ni escorte, en knickerbocker et en vareuse grise, l'empereur, la mine souriante et joyeuse, a l'air d'un simple touriste enchanté de prendre ses vacances. Évidemment, il éprouve un plaisir profond à laisser derrière lui les soucis et les responsabilités pour courir la montagne dans la fraîcheur matinale de cette belle journée. Il y a l'expression de satisfaction et de bien-être qui éclate sur son visage. On devine dans cet homme jeune et vigoureux un admirateur profond de la nature. Guillaume II ne ressemble guère aux photographies et aux portraits officiels. Le Kaiser n'a point le type allemand. De taille moyenne, le teint très foncé, le corps souple, on le prendrait pour un Anglais, surtout dans cet accoutrement de bicycliste. La vivacité du regard est frappante. Son œil bleu a une expression de finesse et d'intelligence qui éclaire toute la physionomie. À 8 heures, notre équipage avance. Aussitôt, nous partons sur les traces de l'empereur, en compagnie de 4 aimables Parisiens qui se rendent comme nous à Christiania par le Val d'Ors, la plus heureuse des rencontres, qui transforme notre voyage en une partie pleine d'entrain et de gaieté. Avant le départ, nous commandons par téléphone notre dîner à Borgund. Toutes les stations postales sont reliées par un fil téléphonique. Grâce à cette organisation, à notre arrivée aux stations, les repas et les chambres se trouvent prêts, d'où une économie considérable de temps. Sur toutes les principales routes postales de Norvège, un service semblable fonctionne dans d'excellentes conditions. Le prix de la conversation ne coûte que 25 centimes, quelle que soit la distance, et la communication s'obtient au premier appel. La route remonte la vallée du Lærdalsleve, très large et très poussiéreuse. Une profonde fracture qui continue au milieu des montagnes, le long fossé du Sognefjord, à 10 kilomètres de Lærdalsosen, première station. On laisse les chevaux souffler une bonne demi-heure. L'étape sera pénible aujourd'hui. 73 kilomètres d'une rude montée. Du bord de la mer au sommet du col, que nous atteindrons dans la soirée, la différence de niveau n'est pas moindre de 1000 mètres. Il est donc prudent de ménager les chevaux. En montagne, le marcheur lent et mesuré dans son pas arrive toujours au but. La route contourne un gros monticule. Les parois rocheuses se rapprochent. La vallée devient une gorge sauvage. Pendant 2 heures, nous cheminons dans un étroit défilé rempli par un bruyant torrent aux eaux cristallines. Partout, le roc nu se dresse en crête fantastique, et de tous côtés, des cascades blanchissent d'écume frémissante la pierre brute et aride. Au fond de cette crevasse, la chaleur réverbérée par les montagnes est intolérable. L'abri de 2 ombrelles superposées est insuffisant pour nous préserver de l'ardeur du soleil. Un instant, il nous semble que nous allons être frappés d'insolation. Avec cela, chaque quart d'heure, les chevaux trempés de sueur s'arrêtent pour boire. Le long de la route, au passage de tous les ruisseaux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, sont disposés de petits abreuvoirs. Jamais un cheval ne passerait devant un réservoir sans y faire halte. Contre ces libations répétées, nos protestations restent vaines. Les bêtes d'abord, les voyageurs ensuite. Les cochers norvégiens sont dignes des plus hautes récompenses dont disposent les sociétés de protection des animaux. Au bout du défilé s'ouvre un bassin de verdure hérissé par le toit pyramidal de l'église de Borgund. Une stave kirke comme celle de Fantoft, la plus cocasse des constructions, un entassement bizarre de pignons et de clocheteaux en bois, pareil à une pomme de pin dressée en l'air. L'église date, dit-on, de 1138. Le bois a une patine noire qui lui donne l'aspect d'un édifice incendié. Lorsque nous arrivons devant l'église, l'empereur achève de déjeuner sur l'herbe. Un seul agent de police est chargé de veiller à sa sûreté et de tenir éloignés les indigènes qui, du reste, ne manifestent aucune curiosité. Une demi-heure plus tard, Guillaume II passe à quelques mètres de nous sous le feu d'une batterie d'objectifs. J'obtiens pour ma part le cliché reproduit à la page 280 au moment où il longe le petit cimetière de Borgund. Après cette intéressante rencontre, nous poursuivons notre lente marche. Le pays devient presque désert. De loin en loin, une ferme d'aspect misérable, un garde, comme on dit en norvégien. Très primitive la construction des étables, des murs de cailloux roulés et de blocs non équarris, un appareil cyclopéen très grossier avec des jointements de gazon et de tourbe. Ces constructions présentent la plus étrange ressemblance avec les fameuses ruines nordiques du Groenland, les vestiges des habitations élevées au XIe siècle sur cette terre glacée par les anciens Normands. Tout près, un ancien tumulus marqué par une simple pierre levée. Ici, la vallée se bifurque, laissant à droite l'embranchement conduisant au Hallingdal, la route du Val d'Ers, après avoir traversé une ancienne moraine, s'engage dans un nouveau défilé. Le sol s'élève rapidement et au-dessus du torrent, la route grimpe sur la montagne à une grande hauteur. En certains endroits, la pente est absolument abrupte. À chaque coup de collier vigoureux que le cheval donne pour enlever l'obstacle, nous glissons au fond de la voiture les jambes en l'air. Juste à l'endroit le plus vertigineux, sur une corniche au-dessus d'un précipice effroyable, un cheval, effrayé par la raideur de la déclivité, s'arrête court à mi-côte, puis recule. La voiture dégringole en arrière, entraînant l'attelage. Nous n'avons que le temps de sauter à bas du véhicule. Nos compagnons arrivent prestement à la rescousse, empoignent solidement les roues et arrêtent la voiture dans sa descente inquiétante. « C'est un jeune cheval, » raconte flegmatiquement le cocher. « Il n'a jamais encore fait cette route. Et il a eu peur de la pente. » Ce dressage, au risque de faire rouler ses voyageurs dans quelques précipices, lui semble la chose la plus naturelle du monde. Heureusement, la poste arrive derrière nous, une carriole conduite par un gamin de 12 ans. L'enfant nous prête son cheval. Grâce à ce renfort, nous réussissons à sortir de ce mauvais pas. La route n'est pas plus dangereuse que celle qui traverse les hauts passages des Alpes. Mais ici, le pays est presque désert. En cas d'accident grave, la situation ne laisserait pas que d'être critique. Aussi bien, pour être en mesure de se porter mutuellement assistance, les cochers ont-ils l'habitude de faire route de conserve et ne perdent jamais de vue les différentes voitures qui composent la caravane de la journée. Encore quelques raidions abruptes, puis nous arrivons à la station de Maristuen, grande construction en bois dans le genre de Stahlheim. Située à l'altitude de 780 mètres, cet hôtel peut être choisi pour un séjour d'été, d'autant qu'aux environs les distractions ne manquent pas pour les chasseurs comme pour les alpinistes. Sur les montagnes voisines, l'Orne sauvage n'est pas rare, et plusieurs sommets d'accès facile, situés à proximité, offrent un panorama étendu sur les massifs de Jotunheim et de Jostedal. Depuis le Moyen-Âge, la route des Val d'Ors a été pratiquée, et pour secourir en hiver les malheureux voyageurs surpris par les tourmentes de neige, plusieurs refuges ont été établis dans les endroits les plus difficiles. Le plus ancien est celui de Maristuen. Sa fondation remonte au XIVe siècle. Nous laissons les chevaux souffler une heure, puis nous remontons en voiture pour aller coucher à Nistuen, la station suivante. Une nouvelle étape de 11 km et une nouvelle ascension de 300 mètres. Encore une gorge sauvage, couronnée de bouleaux, frémissant sous le vent des cascades. Au-delà, la route débouche sur le Filefjeld, le point culminant du passage, à 1009 mètres. Une haute plaine sauvage, ridée d'ondulations courtes et abruptes comme des vagues. Les chevaux, lancés à fond de train, gravissent d'un bond un monticule et redescendent au galop la contrepente pour attaquer avec la même allure le mamelon suivant. Cela donne une impression de montagne russe en vous faisant passer un frisson d'émotion. La solitude est grandiose. De grandes masses de rochers, gercés, balafrés de vert-de-gris et de taches d'ocre. Au pied de la grandiose assemblée des monts sublimes, de tristes alpages avec de grands lacs noirs et des tourbières brunes. Un ciel d'un fin bleu d'acier, blanchi par la lueur décolorée du crépuscule. Une impression de froid et de désert lugubre. Toujours la route contourne des lacs, monte et descend des monticules. Toujours le plateau s'étend sans fin et sans vie comme une terre morte. Mais voici que l'Alpe solitaire s'anime d'un murmure confus de sonnailles et de rumeurs de troupeaux en marche. De longues caravanes de vaches et de chèvres descendent sur les flancs de montagne et se réunissent en troupes serrées autour de chalets éclairés de grands feux. C'est le tableau toujours intéressant de la vie pastorale, du plein été sur les montagnes si longtemps glacées par l'hiver. Sur ce plateau habiterait, me raconte le cocher, un lapon avec un troupeau de rennes. Si le fait est exact, ce serait le représentant de cette race établie à la latitude la plus méridionale. Pendant longtemps, les lapons n'ont point dépassé vers le sud le plateau de Roras, dans la haute vallée du Glommen. Mais depuis quelques années, ils ont commencé à s'étendre sur les hautes montagnes de la Norvège méridionale, tandis que dans le nord de la péninsule, ces nomades sont lentement repoussés par la colonisation scandinave. Peu à peu, ils essaiment en petits clans sporadiques vers les régions du sud. Une blancheur apparaît au bord d'un lac. Voici enfin Nistuen, le terme de notre étape, 922 mètres. Une gentille petite auberge, avec des chambres très simples, mais très propres. Depuis quelques années, d'importantes améliorations ont singulièrement facilité les voyages en Norvège. Sur toutes les routes fréquentées, comme celle du Baldurs, les misérables stations de poste qui, il y a 10 ou 12 ans, constituaient les seuls refuges ouverts aux touristes, ont été remplacées par des auberges spacieuses, parfois même par de grands hôtels. Seuls les cuisiniers indigènes me paraissent réfractaires au progrès. Les gens délicats feront donc bien de ne jamais entreprendre une excursion un peu longue sans se munir d'une petite provision de bonne conserve. 15 juillet. Passé le Filefjeld, s'ouvre devant nous un large entonnoir au fond duquel s'ouvre la vallée de la Veigna, qui constitue le Val d'Ers, et la route descend en lacets rapides à travers des tourbières de saules grises. À la station suivante, à Sokstjat, à l'altitude de 574 mètres, nous rencontrons les plus hautes cultures de seigle et de pommes de terre de la vallée, à 100 mètres plus bas les premiers sapins. Maintenant s'ouvre devant nous une longue région lacustre. En dessous de Sokstjat, voici une première nappe, puis une seconde plus étendue, le Vangsmjosen, longue de 30 km, terminée par une gorge rocheuse à la base de laquelle la route est établie en corniche, le Kvamsklev. Le passage est dangereux au printemps. À l'époque du dégel, des avalanches de pierres se détachent des parois surplombantes et dans une pensée de sage prudence, la route a été recouverte d'une solide charpente aux endroits les plus exposés. Passé ce défilé, nous arrivons à Oilo, la station du dîner, au moment où trois cyclistes se mettent en selle en route pour le Filefjeld. Ils sont arrivés jusqu'ici très aisément et ne comptent mettre pied à terre que pour la rude montée de Sokstjat à Nistuen. D'année en année, les excursions en cycle deviennent de plus en plus fréquentes en Norvège. Le terrain se prête du reste à ce genre de sport beaucoup mieux qu'en Suisse. S'élevant sur le versant oriental en terrasses étagées, c'est-à-dire en plaine plus ou moins longue séparée par des gradins abrupts, il permet d'atteindre sans grands efforts une très grande hauteur. Une fois parvenu au faîte du relief, on n'a plus qu'à descendre. Mais de ce côté, gare aux emballements de la machine. Oilo est un des séjours préférés par les peintres norvégiens dans cette région pittoresque. D'après les renseignements des guides, en souvenir de leur passage, les artistes auraient couvert de paysages et de scènes de genre les murs d'une chambre de l'auberge. Il y aurait là un petit musée très intéressant d'œuvres scandinaves modernes. Lorsque nous demandons à l'hôtesse de nous faire voir cette fameuse pièce, la brave femme éclate de rire. « Venez voir ma galerie !» Et elle nous conduit dans une chambre absolument nue, où tout d'abord nos yeux étonnés n'aperçoivent rien. Enfin, en regardant bien, nous découvrons deux ou trois esquisses grandes comme la main. C'est une des plus amusantes des nombreuses mystifications dont les guides égayent les voyages aux dépens des touristes. Après Oilo, le Strandfjord, une nouvelle traînée de lacs qui ne forment pour ainsi dire qu'une seule et même nappe, 28 km. Jusqu'à Fagerlund, la station du souper, encore 11 lieues. Elle passe vite. Nos infatigables petits chevaux filent bon train et le paysage est superbe. Sur les bords de l'eau blanchissent des maisonnettes claires. Autour, c'est une fraîche verdure de vigoureuses forêts, de magnifiques pelouses, et dans l'horizon bleu des montagnes lointaines, les cimes neigeuses de Jotunheim jettent des pâleurs livides annonçant la fin du jour. Ainsi s'achève, au pays des forêts et des fjords, de Bergen à Christiania par le Val d'Ors, par M. Charles Rabot.